Philosophie politique, Père Philippe Saint-Joseph, 17 octobre 1984.
Nous devons essayer d'entrer dans la philosophie politique. Alors, je vais situer un peu le problème, si vous voulez, aujourd'hui, puisque c'est un cours d'introduction, pour que vous voyez bien l'importance, l'intérêt et les difficultés de ce problème. Je vous ai dit hier que toute la philosophie reposait sur nos expériences d'ordre pratique. Il fallait jamais l'oublier, le triangle de base, si vous voulez, sur lequel toute la philosophie repose. Parmi ces expériences, il y a l'expérience de la coopération. Autrement dit, je reviens sur ce que je vous disais hier, philosophie de l'activité artistique, philosophie éthique et philosophie politique. Le triangle de base, trois aspects sur lesquels, de fait, toute la philosophie spéculative repose. Il faut tout le temps revenir à cela. Les trois grandes expériences, l'activité artistique, l'expérience du travail. Je prends l'expérience du travail comme expérience la plus commune, si vous voulez. Parce que je ne peux pas prendre comme expérience l'inspiration. Vous comprenez bien. D'abord, l'inspiration est une expérience purement intérieure, elle ne peut pas être le point de départ d'une philosophie. On partirait dans une espèce de philosophie idéaliste si je partais de l'inspiration. L'inspiration existe, mais ce n'est pas le point de départ. Tandis que l'expérience du travail est une expérience que nous avons tous. Or, le facere, c'est-à-dire la philosophie de l'activité artistique prise de façon très générale, c'est l'homme transformant l'univers. Bien comprendre ça, c'est l'homme transformant l'univers. Nous y reviendrons puisqu'il y a un cours de philosophie de l'art de temps en temps. N'est-ce pas ? Enfin, pas régulièrement, mais de temps en temps, il y a un cours de philosophie de l'art sur le facere. L'autre expérience que nous avons, c'est l'amitié. Il faut tout le temps réfléchir sur ces deux grandes expériences de base. Le travail et l'amour d'amitié. Et c'est bien deux expériences diamétralement opposées. Si vous réfléchissez sur ces deux expériences, vous voyez bien que ça correspond à deux extrêmes. Le travail, c'est dans le temps. Rien ne met plus dans le temps que le travail. Vous pouvez mesurer le nombre d'heures où vous travaillez. J'ai travaillé tant d'heures au chantier. J'ai travaillé tant d'heures à la vaisselle. J'ai travaillé tant d'heures à la philosophie aristotélicienne. Même le travail intellectuel peut se mesurer. Donc là, on est dans le temps. Tandis que dans l'amour d'amitié, vous êtes au-delà du temps. Vous ne pouvez pas mesurer l'amour et l'amour d'amitié. Vous pouvez mesurer la vie commune, oui. La vie commune n'est qu'une incarnation de l'amitié. C'est pas l'amitié. L'amitié est autre chose. Et l'amour d'amitié est au-delà de ce que représente justement le point de vue de la vie commune comme telle. La vie commune, c'est quelque chose qui se voit, qui peut se mesurer aussi, tandis que l'amour d'amitié ne se mesure pas. Il est en dehors du temps. Il y a quelque chose d'intérieur et pourtant, ça atteint l'autre. Il y a un réalisme dans l'amour d'amitié qui fait qu'on atteint l'autre, qu'on atteint la personne objectivement, on atteint la vie. Donc, c'est ces deux grandes expériences qui sont la base de toute la philosophie pratique. il y a une troisième expérience qui va nous poser des tas de problèmes, du reste, hein. On va essayer de comprendre. L'expérience d'une coopération, des groupes de travail. Vous n'arrivez pas à travailler tout seul, vous demandez l'aide de quelqu'un, vous coopérez. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la même chose de travailler seul et de travailler avec quelqu'un d'autre, en tandem. Il y en a un qui pédale et l'autre qui pédale moins. Et plus ça monte, plus on a l'impression que c'est l'autre qui pédale plus. Parce que c'est dur et on ne voit pas que ça monte. Alors on se dit, tu fais rien du tout, c'est moi qui pédale tout le temps. Mais dans la coopération, c'est comme ça. Si on est très amis, on sait très bien qu'il y a une générosité qui fait qu'on coopère ensemble. Mais la coopération représente un problème typiquement particulier. C'est une expérience nouvelle. Et je crois que cette expérience nouvelle va de fait permettre le développement d'une partie de la philosophie qu'on appellera philosophie politique ou philosophie de la communauté. Peut-être qu'aujourd'hui, on va terminer philosophie de la communauté. Parce que philosophie politique, ça a une résonance assez particulière. On croit tout de suite qu'on fait de la politique. Alors quand on fait de la politique, on ne fait pas de philosophie. La politique aujourd'hui, c'est les partis politiques, et on se demande encore si c'est de la politique. Et la philosophie politique étudie quelque chose de particulier de l'homme. Vous voyez, toujours, c'est l'homme qu'il faut rechercher. Et n'oubliez pas qu'au terme de toute votre étude philosophique, autant qu'on peut dire au terme, nous découvrons les grandes dimensions de l'homme. Vous voyez bien qu'ici, vous avez déjà trois dimensions. Trois dimensions de l'homme. L'activité artistique, donc l'homme en tant qu'il domine l'univers. J'ai une capacité de dominer la matière. J'ai une capacité de dominer l'univers en tant qu'il est capable d'être modifié, en tant qu'il est capable d'être transformé. C'est ça l'activité artistique. Si l'univers était parfaitement déterminé dans une position comme Leibniz, où l'univers est la chose la plus parfaite qui existe, Dieu ne pouvait pas faire un univers plus parfait. Donc on a une position idéaliste sur l'univers. L'univers, il est absolument parfait. Donc, chaque fois que vous intervenez, vous le détruisez. Alors à ce moment-là, vous voyez bien qu'il n'y a plus ce dominium sur l'univers. Et la parole de Jésus, de la parole de Dieu, dominer l'univers n'a plus de sens. Si l'univers était parfait, si l'univers était vraiment le plus parfait qui puisse exister, vous ne pourriez que le contempler. Vous ne pourriez que le regarder. Vous ne pourriez que utiliser directement l'univers, mais vous ne pourriez pas le transformer. Vous pouvez transformer l'univers, exercer ce dominium, parce que l'univers implique quelque chose qui peut être modifié dans le bien. Parce que si le dominium, le travail, l'activité artistique qui transforme l'univers, le diminuer, vous comprenez bien que l'activité du travail, alors, serait toujours mauvaise. Diminuer l'univers, c'est une activité tyrannique. Tandis que le dominer pour coopérer avec l'univers et le rendre meilleur. Alors, à ce moment-là, vous rendez l'univers plus habitable. Et donc, vraiment, vous le rendez meilleur. Évidemment, il y a une frontière. On sait très bien que l'homme peut tyranniser l'univers. Et on sait très bien que l'homme peut coopérer avec l'univers par le travail. Alors ça, c'est la grande question qu'on doit se poser toujours. Est-ce que la désagrégation de l'atome, est-ce que c'est une destruction ou une coopération ? posais la question. Est-ce que la désagrégation de l'atome est-elle vraiment une coopération avec l'univers ou est-ce que c'est une destruction? Est-ce que la fécondation artificielle, est-ce que c'est une coopération ou est-ce que c'est une destruction? Très très difficile, il y a certains sujets où on voit très bien le point de vue frontière. Est-ce que c'est vraiment une coopération, c'est-à-dire le rendre meilleur? Le travail, le fat sharing, rend l'univers meilleur. C'est l'univers en tant qu'il est capable de transformer, c'est-à-dire l'univers considéré en tant qu'il est une matière. La matière, c'est ce qui est capable de transformer dans quelque chose de meilleur, de réaliser l'univers. Et l'œuvre est meilleure que la matière. Et donc l'univers transformé par l'homme est meilleur que l'univers dans son état natif. Et quelquefois, on est bien obligé de reconnaître, vous le détruisez. Pas seulement point de vue esthétique. Point de vue esthétique, on sait très bien, il y a des paysages merveilleux qu'on a vus, puis on revient 10 années après, on voit des constructions d'immeubles effrayants. On dit tout le paysage est complètement sacrifié. Si cet immeuble n'était pas là, ou ces immeubles n'étaient pas là, on aurait un paysage merveilleux. Et tout s'est détruit. Je ne me place pas du côté esthétique. Je me place du côté bonté de l'univers. Bonté par rapport à l'homme. Vous voyez, alors, le point de vue esthétique joue quand même. Hein, parce qu'autant que possible, on doit faire des choses belles. Faire des choses laides, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Et c'est une coopération de matière qui fait qu'on dégrade. Alors il y a une question qu'on doit toujours se poser quand il s'agit justement de l'activité du fat-chemin. Est-ce que nous coopérons vraiment avec la matière pour arriver à faire un univers meilleur ou est-ce qu'en réalité on détruit la matière? Posez-vous la question à propos de la désagrégation de l'atome. Et c'est pas si facile que ça de répondre. C'est une question que le philosophe doit pouvoir répondre. C'est-à-dire, je dois réfléchir. C'est normal. Je dois réfléchir à ce que la désagrégation de l'atome est-elle, de fait, rend l'univers meilleur ou est-ce que vous êtes en face d'un fat-chéré qui tyrannise ? La fécondation artificielle. Constamment, il faut se poser le problème. Hein. Le fat-chéré doit normalement coopérer avec l'univers en tant que matière et rendre l'univers meilleur. Et si le fat-chéré rend l'univers moins bon, pire, c'est mauvais. Le fat-chéré est commandé par l'œuvre. La finalité de l'activité artistique, c'est l'œuvre. L'œuvre est une fin et tout. Nous y reviendrons. Lorsqu'il s'agit donc, de l'amitié, c'est la personne amie en face de la personne amie. C'est donc en premier lieu le respect de la personne humaine. Au fond, je découvre la personne humaine en aimant cette personne et en faisant de cette personne mon amie. Et à ce moment-là, je la découvre. Je n'aime pas quelqu'un pour le modifier. Aimer quelqu'un pour le modifier, c'est le considérer comme une matière. Ça arrive très facilement, ça. Tu vivras avec moi, au bout d'un certain temps, tu deviendras merveilleux, tu seras bien meilleur, parce que tu seras transformé par l'amitié que j'ai avec toi. Ce n'est pas le but de l'amitié. Le but de l'amitié, c'est pas transformer l'autre. Quand le but de l'amitié, c'est transformer l'autre, vous voyez, c'est le fâché qui l'emporte sur le point de vue de l'amitié. Et c'est un défaut qui arrive très souvent aujourd'hui. On se considère un tout petit peu comme la mesure et la cause exemplaire. Et alors, tous ceux qui ne sont pas semblables à nous, on dit « Ah, ils sont inférieurs à nous, donc il faut les transformer. » Ils sont eux-mêmes. Et vous n'en savez rien du tout s'ils ne sont pas meilleurs que vous. Vous avez votre barème à vous, mais votre barème, ce n'est pas la cause exemplaire de l'autre. L'amitié commence à respecter l'autre en tant qu'autre. C'est évident que le fait tiré implique un respect de la matière. C'est sûr, il y a un respect de la matière. Mais le respect de la matière n'empêche pas qu'on transforme la matière pour en faire une œuvre. Tandis que le respect de la personne humaine, c'est de respecter la personne humaine dans ce qu'elle a de plus elle-même. Et à ce moment-là, c'est un lien d'amour, d'amitié qui se réalise, et l'autre, justement, est respecté comme autre. On essaie de le connaître et de l'aimer comme on vient. Et c'est pour ça que je respecte pleinement. Donc là, on voit très bien les deux activités tout à fait différentes. L'activité du facere et l'activité de l'agrere. Je prends exprès les termes latins, parce qu'ils sont classiques, ils sont importants à retenir. Le facere, c'est toute l'activité de transformation de la matière. L'agere, c'est être lié à une personne par amour, et je deviens responsable de cette personne. L'agérer, l'agir, l'activité éthique, me met en relation avec une autre personne et me permet d'être responsable d'elle, par l'amour. Pas de responsabilité en dehors de l'amour. Au sens strict, vous voyez, il n'y a pas de responsabilité au niveau du facere. Au sens strict, il y a certaines responsabilités qui interviennent. Mais au fond, est-ce que je dois respecter mes outils? Je les respecte en vue d'efficacité, ce n'est pas un véritable respect. Quand vous respectez un âne pour faire qu'il puisse vous porter une chose lourde, est-ce que c'est encore le respecter? Ou c'est tout simplement le considérer dans un but utilitaire? Est-ce que quand vous considérez quelqu'un dans un but utilitaire, est-ce que vous le respectez encore? Je te respecte parce que j'ai besoin de toi. C'est pas un respect, ça. On respecte l'autre pour lui. Tandis que respecter l'autre uniquement pour l'utiliser, c'est pas un respect. Et donc, c'est pas encore la responsabilité. C'est très curieux, ça. C'est très important à voir, parce qu'il y a un glissement là qui ne se fait pas toujours. Vous respectez l'outil d'un autre, il vous l'a prêté. On respecte les automobiles qui font partie du bien commun. Parce qu'ils sont bien commun. S'ils m'appartenaient, c'est tout à fait différent, je fais ce que je veux. Mais parce qu'ils ne m'appartiennent pas et qu'ils sont bien communs, je respecte. Oui. En fonction de l'amour que j'ai pour mes frères. Si je n'ai pas d'amour pour mes frères, alors le respect, non, c'est un outil, pas d'importance. Tandis qu'au contraire, il y a un respect qui pousse dans la mesure où il y a un amour. Et réfléchissez là-dessus, c'est très important de voir à quel niveau le point de vue de la responsabilité et du respect dans l'ordre pratique vont être, à partir de l'amour. Et non pas à partir du facere qui est la philosophie de l'efficacité. Le facere est l'âme de l'efficacité. Puisque ça doit aboutir à une œuvre. Donc il faut bien que ce soit efficace. Tandis que l'agir n'est pas premièrement efficace. Il me lie à une autre personne. Alors nous avons donc ces deux grandes activités fondement. La troisième, c'est de fait des liens que j'ai avec une personne et qui fait que je travaille avec elle. D'où la coopération. La coopération implique des liens éthiques et des liens de travail. On est donc en face de quelque chose de mixte. C'est pas simple du tout la coopération. C'est pas élémentaire. Tandis qu'on peut faire le travail et l'amour d'amitié, c'est quelque chose d'élémentaire. Quand je dis élémentaire au point de vue philosophique, je veux dire quelque chose de premier, qui a un caractère tout à fait particulier, tandis que la coopération implique toujours les deux. C'est du reste, je crois, à cause de ça, que la philosophie de la communauté s'est si peu développée au point de vue philosophique. Parce que c'est très rare qu'on développe la philosophie du travail. La philosophie du facere n'est pas très développée. La philosophie de l'agere est développée parce qu'elle était gardée par les théologiens. Les théologiens ont pris soin de moi. Et les théologiens n'ont pas beaucoup développé le facere. Regardez le nombre de traités qui existent sur le travail. Au point de vue théologique, il a fallu que Marx fasse un traité sur la praxis pour que les théologiens soient émus et qu'ils commencent à faire des traités en essayant de répondre à Marx. C'est pas un vrai traité du facere. C'est très très curieux historiquement. Je crois qu'on a les deux extrêmes. Voyez, premier traité sur le travail, c'est Hésiode. Puis après, il faut attendre Marx. Pas beaucoup de philosophie du travail. C'est l'avantage, c'est que si vous travaillez un peu la philosophie du travail, vous serez vite original. Ce qui est important. Il y a des traités économiques sur le travail, mais très peu de traités proprement philosophiques. Donc, n'ayant pas regardé le facere dans une lumière philosophique, on est incapable de faire la philosophie de la communauté. Parce que la philosophie de la communauté ne peut pas se comprendre uniquement du côté éthique. La philosophie de la communauté implique éthique et activité artistique. Et je crois que là aussi, c'est très intéressant de souligner cela, parce que ça fait comprendre comment la philosophie de la communauté est restée, de fait, en arrêt. Bon, je vais revenir là-dessus. Je dis simplement, troisième expérience, la coopération. Nous avons tous ces expériences-là. En famille, on a joué avec son frère, sa sœur, les copains. Donc, on a joué, coopération. Première coopération, c'est dans le jeu. C'est bien évident. La seconde coopération, c'est dans les examens. Mais la première, c'est dans le jeu. Et puis, aux examens, ou alors là, on coopère, c'est magnifique. Les petits papiers en dessous, là, ça se coopère. C'est étonnant, fontaine, formulation, merveilleux. On va comme ça pour voir ce papier. On comprend ce que c'est que la coopération. J'ai passé mon bac grâce à mon ami. La coopération, moi. Moi, j'aurais jamais vu passer. Mais j'avais l'autre qui était là. Grâce à Dieu, c'était tout à fait providentiel. Alors, on a pu se passer, c'est la coopération, ça on sait. La coopération entre voleurs, c'est extraordinaire comme ils coopèrent. Alors évidemment, le point de vue éthique de l'agir est moins regardé, que le point de vue du facere. On regarde que l'efficacité. C'est pour vous faire comprendre que nous avons des expériences du travail, l'expérience de l'ordre de l'amitié, de l'agir, de la responsabilité, et l'expérience de la coopération. S'il y a trois expériences types, irréductibles les unes par rapport aux autres, il y a donc possibilité de trois philosophies. Le développement de la philosophie de l'activité artistique, de l'éthique et de la philosophie communautaire. Puisque la philosophie communautaire a comme fondement la coopération. Je vais essayer maintenant de prendre un autre point de vue. Un point de vue critique, avant d'entrer vraiment dans la philosophie communautaire. Un point de vue critique. Pour qu'il y ait une nouvelle philosophie, il faut la découverte d'un nouveau principe. Ça, je suis en critique, alors, comprenez bien. Quand je dis que je suis en critique, je suis dans une attitude réflexive pour essayer de comprendre quelle est la structure particulière de cette philosophie politique. Donc, je présuppose que cette philosophie politique existe. Il en existe, du reste, des philosophies politiques. Platon, Aristote, Machiavel, et puis Spinoza. Il existe des philosophies politiques. S'il existe des philosophies politiques, est-ce que ces philosophies politiques sont-elles une véritable philosophie ? Aujourd'hui, on regarderait dans les sciences humaines. Dans les sciences humaines, y a-t-il vraiment possibilité d'avoir une philosophie politique ? C'est une question très intéressante, que je vais simplement souligner avec vous, sans entrer trop dedans, mais c'est une question très importante. Je crois qu'on doit, surtout quand les questions sont assez délicates, toujours nous poser la question. Oui. La critique a l'avantage qu'elle peut être avant pour déblayer le terrain, elle peut être après aussi. J'ai parfaitement le droit de me poser la question, une philosophie politique qui existe, comme celle d'Aristote, une philosophie politique qui existe, comme celle de Platon, celle de Machiavel, sont-elles vraiment de la philosophie ? Pour qu'il y ait connaissance philosophique, il faut que cette connaissance soit scientifique au sens aristotélicien, c'est-à-dire au sens d'une connaissance qui découvre les causes et les principes. Les causes et les principes propres. S'il n'y a pas découverte de principes propres et de causes propres, il ne peut pas y avoir de connaissance scientifique. C'est toujours ce qu'il faut se rappeler par rapport surtout au développement des sciences modernes. Quand je dis sciences modernes, je les oppose à Aristote. Hein. Donc c'est moderne au sens très large. Hein. Les sciences modernes. Quelle différence y a-t-il ? Les sciences modernes appellent des lois ou cherchent à préciser des lois. J'allais l'oublier. C'est pour ça que le mot science est pris dans deux significations tout à fait différentes quand je parle de science au niveau aristotélicien, au niveau d'Aristote, et science au niveau moderne. Ça, il faut savoir ça. Et il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir là-dessus. Lisez les degrés du savoir de Maritain. C'est un des rares livres qui existent dans ce domaine-là. Même si on peut discuter certains points, il a le mérite quand même d'être écrit. Et d'y avoir une réflexion sur les degrés du savoir. Il y a des degrés différents du savoir. Alors, le mot science, connaissance philosophique, c'est une connaissance scientifique, parce qu'elle atteint les causes et les principes propres. La science moderne, elle nous fait découvrir des lois. Quelle différence y a-t-il entre cause, principe et loi ? Très important de le comprendre. Là, je suis en critique, vous voyez bien. Je suis en critique, je réfléchis sur des choses qui existent. Sur des choses qui existent. Et j'ai parfaitement le droit de les comparer pour mieux saisir. La loi, c'est une relation. Dans toute loi, vous mettez un lien, une relation entre antécédent et conséquent. Pour que telle chose apparaisse, il faut nécessairement qu'il y ait telle autre chose. C'est propre de la loi. La loi saisit toujours une relation de nécessité, une relation de nécessité entre antécédent et conséquent. Toute loi. N'importe quelle loi biologique, quelque loi physique, quelque... c'est toujours une relation de nécessité entre antécédent et conséquent. Si Si B existe, il faut que A existe. Si B existe, si B de fait existe, il faut que A existe. Parce que B est directement en dépendance de A. Et donc, si je constate que B existe, il faut que A existe. Vous saisissez une relation de nécessité. Et vous voyez que cette relation de nécessité, dans des divers cas, se retrouve toujours la même. Quand je parle de cause et de principe, je ne parle plus de relation. Je suis au contraire en présence de quelque chose d'absolu. Que l'intelligence humaine découvre. Oui, c'est là la très grosse différence entre la loi et la cause et le principe. Et ça, il faut bien le saisir, hein, parce qu'autrement, on fait toutes les confusions. Alors, il faut arriver petit à petit à le saisir. Hein. La loi, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Hein. On va faire un tout petit peu de physique pour savoir ce que c'est que la loi, un peu de biologie pour savoir ce que c'est que la loi. Donc c'est facile à comprendre. Et même les lois psychologiques, hein. Sont plus vagues, plus difficiles à saisir, mais il y a des lois psychologiques, ça c'est sûr. Et alors il faut saisir ce que c'est que ces lois. Il y a des lois sociologiques. Tandis que la cause et le principe, c'est saisi comme quelque chose de premier. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc c'est saisi comme un certain absolu dans l'ordre de la connaissance ou dans l'ordre de la réalité. C'est un premier dans l'ordre de la connaissance, c'est un premier dans l'ordre de la réalité. Voilà la cause et le principe. Et mon intelligence seule découvre ce que représente ce premier, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et je le découvre grâce au procédé de l'induction. Et la loi, je la découvre aussi grâce au procédé de l'induction. Mais ce n'est pas la même induction. Il y a une induction qui aboutit aux lois, il y a une induction qui aboutit aux principes et aux causes. Je n'entre pas dans ce problème-là, parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin. Mais ceux qui connaissent un peu savent comment je découvre les causes et les principes propres grâce à l'induction, l'épagogé en grec, et je découvre les lois grâce aussi à une induction. Je répète une expérience de multiples fois dans des circonstances différentes pour voir si vraiment A est imposé, B apparaît. Si B existe, A nécessairement existe. Donc ça c'est la répétition normale qu'on fait pour être sûr qu'on est en présence d'une loi. Donc c'est l'induction qui nous conduit aux deux. Alors vous voyez que la différence, c'est que la cause et le principe sont saisis dans l'ordre de la connaissance comme quelque chose de premier au-delà de quoi je ne peux pas aller. Ou quelque chose de premier dans l'ordre du devenir ou dans l'ordre de l'être. C'est dans les trois domaines. Le domaine de la connaissance, de l'intelligibilité, le domaine du devenir et le domaine de l'être où je découvre des principes et des causes. Il y a des principes uniquement d'intelligibilité. Alors, on appellera ça des raisons. C'est vrai, c'est une raison. Puis, il y a des principes dans l'ordre du devenir, et il y a des principes dans l'ordre de l'être. Oui. Alors, ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est la raison. On appelle ça des raisons. Dire ce qui donne le sens à tel ou tel problème, à telle ou telle réalité. L'intelligence se saisit. Vous voyez, le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est un principe dans l'ordre de la connaissance. Vous voyez ce que c'est que le principe de non-contradiction, hein ? On ne peut pas affirmer en même temps et nier la même chose à l'égard d'une autre réalité. On ne peut pas en même temps affirmer et nier la même chose par rapport à un sujet donné. C'est ça le principe de nombre de radictions. Vous voyez ? Donc le principe de nombre de radictions, c'est un axiome. C'est quelque chose de tout à fait premier. Mais c'est dans l'ordre de la connaissance. C'est pas dans la réalité. Tandis qu'au contraire, lorsque je découvre la nature, c'est dans l'ordre du devenir. Quand je découvre la substance, c'est dans l'ordre de ce qui est, dans l'ordre de l'être. Donc, il y a trois niveaux où je saisis des principes. Normalement, quand il s'agit de la connaissance, je parlerai de principes et non pas de causes. Et je parlerai de causes lorsqu'il s'agit du devenir et lorsqu'il s'agit de ce qui est. Ça, c'est des petits, c'est des mots que je vous explique pour avoir des petites clés. Il faut savoir ça, c'est un langage. C'est un langage classique qu'il faut comprendre. Donc la différence entre la loi, la cause et le principe. Toute cause est un principe, tout principe n'est pas une cause. Toute loi se fonde sur une causalité. Nécessairement. Mais la causalité n'est pas une loi. C'est pour que vous essayiez de saisir les différents degrés de compréhension. Je reprends, pour que vous voyez bien. C'est des définitions, ça. C'est des choses qu'il faut savoir. La petite cuisine, de temps en temps, il faut en faire. Il faut savoir qu'une fourchette, c'est une fourchette. Une cuillère, c'est une cuillère. Un couteau, c'est un couteau. Vous avez appris ça. Bien, moi, je vous apprends une petite vaisselle un peu plus particulière, mais c'est une vaisselle, tout simplement, ne confondez pas. Alors, je dirais que toute cause implique un principe. Mais tout principe n'est pas nécessairement une cause. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que le principe est dans l'ordre de l'intelligibilité. Et donc, c'est uniquement promis dans l'ordre de la connaissance. Et pas nécessairement dans l'ordre du devenir et dans l'ordre de l'être. Pour moi, ce qu'il y a de plus universel, c'est l'ordre de l'intelligibilité. Et c'est pour ça que le principe est uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité, dans l'ordre de la connaissance. Alors, tout principe n'est pas nécessairement une cause, tandis que toute cause est un principe, parce qu'il est premier. La loi, c'est une relation. Et c'est une relation qui se fonde nécessairement sur une causalité. Alors je dirais, toute loi se fonde sur une causalité. Mais la causalité n'est pas la loi. Il suffit de comprendre. Alors, la causalité se fonde sur une causalité. La loi se fonde sur une causalité efficiente. Normalement. C'est surtout la causalité efficiente. Antécédents et conséquents. Mais il peut y avoir des lois qui se font sur la causalité formelle, sur les diverses causalités. Parce qu'il faut ajouter ça tout de suite pour ceux qui ne sont pas encore très au courant. Alors, si vous ne comprenez pas, vous demanderez à ceux qui doivent vous aider à comprendre de reprendre le problème des causes et des principes et de la loi. Parce que ça, c'est très important. Même si au début, on ne comprend pas très bien, il faut tout de suite s'orienter vers ces choses-là. De fait, on a distingué quatre causes. Et ça, il faut le comprendre. Hein? Quatre causes. La cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente, et la cause finale. Alors vous en ajoutez une cinquième, la cause exemplaire, celle qu'on connaît mieux. Parce qu'on se croit toujours qu'on est né pour être exemplaire. Alors ça, on se comprend, il suffit de se regarder. On se regarde dans la glace, on est l'exemplaire. On ne sait pas de qui, mais ça varie. On est l'exemplaire, cause exemplaire. Alors, par rapport aux autres, c'est sûr, c'est par rapport aux autres qu'on est cause exemplaire. La cause formelle, c'est la détermination. La cause matérielle, c'est l'indétermination. La cause efficiente, c'est justement cette capacité qu'on a d'agir. Et la cause finale, c'est le bien qui attire. Il faut saisir ça, savoir ça. C'est des choses élémentaires. Tout à fait. Mais c'est important, oui. Ça fait partie de la petite cuisine. Petit à petit, arriver à comprendre ces choses-là. Arriver à préciser ce que représentent ces causes-là. Donc, causalité formelle, la détermination. Causalité matérielle, l'indétermination. Causalité efficiente, je suis source de la jaillie. Vous êtes causalité efficiente quand vous grattez sur votre papier. Et le papier, c'est la cause matérielle. Alors, vous grattez sur votre papier, c'est la cause matérielle. Le papier pâtit. Il jaillit. Surtout quand vous appuyez fort. Hein. Alors, il jaillit. Et vous êtes cause efficiente parce que vous grattez. Quelle est votre causalité finale quand vous grattez? La recherche de la vérité. Et vous voulez, en grattant, en écrivant, mieux retenir. C'est pour ça. Quelle est la détermination formelle quand vous grattez? Ben, c'est que vous, normalement, ça doit avoir une certaine signification. Quand vous êtes très fatigué, ça continue sans aucune signification. Alors la cause efficiente, la détermination, enfin, la cause efficiente continue, vous savez, c'est comme le vieux cheval qui retourne à l'écurie. C'est pas très bien, il continue, il marche. Alors il y a des gens qui continuent de marcher, ils écrivent. Causalité efficiente. Il y a toujours des tâches qui se font. Vous voyez, mais il n'y a pas de causalité formelle. Parce que il, vous savez pas. On ne voit pas du tout, aucune détermination. Et la causalité finale, c'est au moment même où vous êtes uniquement dans un écrit machinal. Un écrit machinal n'a pas de causalité finale. C'est le fricaré barbare. Le fricaré barbare, se frotter la barbe, ça n'a pas de finalité. Ce n'est pas pour que la barbe fleurisse. Mais c'est, ça n'a pas de finalité, donc c'est sans finalité. Sans finalité, parce que c'est instinctif. Tout ce qui est instinctif est sans finalité. Au point de vue humain, vous comprenez bien. Ça a une finalité au niveau de la nature, au niveau biologique, ça c'est sûr. L'instinct. Mais pas au niveau humain. Au niveau humain, ça n'a pas de finalité. C'est quelque chose en dehors. Alors, donc, je continue. Vous voyez que la connaissance philosophique implique la découverte d'un principe, d'une cause. Alors, la grosse question qui se pose, je suis en face d'une activité proprement politique, communautaire. Quel est le propre d'une activité politique et communautaire ? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la coopération. Quand je coopère, pour arrêter le cours, c'est une activité politique, quand je coopère, je fais une activité, une action politique. Cette action politique, quelle est sa cause ? A-t-elle une cause propre ? Si elle n'a pas de cause propre, il n'y a donc pas de connaissance philosophique au point de vue politique. Je continuerai ça la fois prochaine, parce que ça c'est très important. De savoir qu'il existe vraiment une philosophie politique. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Surtout quand vous regardez les sciences économique d'aujourd'hui, ou les sciences humaines d'aujourd'hui. Est-ce que vraiment, dans la coopération, il y a à découvrir un principe propre ? Ou est-ce que tout ça ramène tout simplement à l'éthique et à la politique, à l'éthique et au Thatcheret ? Est-ce que la coopération implique un nouveau principe distinct du Thatcheret, distinct de l'agir ? Alors, réfléchissez là-dessus. Ça, c'est un très beau problème. Est-ce que, et si vous ne découvrez pas de principe propre, il n'y a pas de philosophie de l'activité politique. Vous ramenez l'étude de la coopération à l'éthique ou au factuel.